Géopolitique, Chantal Loureau.
Bonjour, bienvenue dans Géopolitique. Il y a 30 ans exactement, au soir du 9 novembre 1989, le monde médusé assistait à l'ouverture du mur de Berlin qui depuis 1961 coupait la ville et l'Allemagne en deux. Un mur symbole de la guerre froide et de la partition du monde en deux blocs antagonistes, l'Est et l'Ouest. Dans la nuit, des pans entiers du mur de Berlin vont s'effriter sous les coups de pioche, tandis que plusieurs milliers de citoyens de RDA franchissent librement la frontière vers la RFA. Le récit de l'envoyé spécial de France Inter à Berlin, Gérard Cher.
La surprise a été complète, la stupeur totale, la joie débridée, une libération physique mais aussi une libération des esprits. Il fallait les voir pleurer, ceux qui passaient la frontière de l'Est timidement sans oser y croire. Il fallait voir cette solennité de certains incrédules même lorsqu'ils étaient arrivés à l'Ouest. Il fallait entendre les hurlements de joie des milliers d'Allemands de l'Ouest massés à la porte de Brandenburg ou à Checkpoint Charlie, les ovations pour accueillir ceux qui depuis 28 ans étaient enfermés. Ils sortaient et ils regardaient la foule, ils regardaient la pagaille des voitures. Ils appelaient à l'aide des agents débordés. Où est le métro? Où est le cours Fürstendamm? Combien coûte une bière? De la bière, on en a bu pas mal cette nuit, et du vin, et du champagne, ou du schnapps. On s'est enivré, c'est vrai, à Berlin, mais ce qui saoulait le plus, c'était l'air vif de la liberté. Berlin-Est, Gérard Cher, France Inter.
11 mois plus tard, le 3 octobre 90, l'Allemagne sera réunifiée sous la houlette d'Helmut Kohl. L'une après l'autre, les républiques soviétiques proclament leur indépendance vis-à-vis de Moscou. Le 25 décembre 1991, le père de la perestroïka, Mikhail Gorbatchev, démissionne. L'URSS disparaît. Alors comment a évolué la diplomatie allemande depuis 1989? Quelles ont été les conséquences de l'écroulement du bloc de l'Est au niveau européen et international? Que sont devenus les espoirs de changement soulevés par la disparition du rideau de fer? À l'heure de la montée des nationalismes, de la remise en cause de l'OTAN, de l'hostilité de Donald Trump au multilatéralisme, des divisions européennes, de la poussée de l'extrême droite ou encore de l'affaiblissement des partis traditionnels, quelle est la stratégie de l'Allemagne? On en débat avec nos invités. Dorothea Bonnekamp, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à l'université Sorbonne Nouvelle Paris 3. Hans Stark, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire général du CERFA, le comité d'études des relations franco-allemandes à l'IFRI, l'Institut français de relations internationales, et vous êtes professeur de civilisation allemande à la Sorbonne. Thierry Volton, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, essayiste et spécialiste du communisme. D'abord, j'ai envie de vous demander à tous les trois, quels souvenirs vous gardez de ce 9 novembre 1989 ? Dorothea Bonnekamp.
Je dois certainement d'emblée révéler mon âge. J'avais 17 ans à l'époque. J'étais une jeune écolière. J'ai totalement raté le 9 novembre et j'ai appris le 10 novembre, le matin, à 8 heures, lors d'un cours de mathématiques, lorsque notre professeur nous a annoncé à tous que le mur était tombé. J'en garde encore le frisson. Je pense que c'est certainement un des souvenirs dont tout le monde sur cette planète se souvient le mieux. En tout cas, ceux qui ont eu la chance de vivre ce moment.
Hans Stark.
J'ai vécu à Berlin en 1989, mais j'avais quitté Berlin pour Paris quelques mois auparavant, sans trop de regrets, mais j'avais ce souvenir d'avoir longé le mur en vélo très régulièrement parce que j'habitais le quartier de Kreuzberg pratiquement tous les jours. Et pour moi, ce mur-là, il avait... c'était comme les Alpes ou la muraille chinoise. Enfin, je veux dire, c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas imaginer un jour disparaître. Tellement il était entré dans nos gènes, dans la normalité de tous les jours. D'ailleurs, on pouvait aussi, en tant que Berlinois de l'Ouest, passer à l'Est assez facilement. Il fallait juste payer 30 marks et passer les différents checkpoints, mais c'était pas du tout difficile. Il fallait juste rentrer le soir, la nuit, donc on n'avait pas le droit de dormir sur place. Bref, je veux dire, c'était quelque chose de normal. Et donc, pour moi, pour terminer, le 9 novembre, c'est une énorme surprise. Même si on a observé l'écroulement lent et progressif du système soviétique durant les mois auparavant et la situation en Pologne, etc., on ne s'attendait pas à ce que le mur tombe aussi vite, de façon aussi inattendue.
Thierry Volton, est-ce que vous aussi, vous avez été surpris le 9 novembre?
C'était une surprise, évidemment. En même temps, c'était une inévitabilité parce que c'est pas tombé comme ça du ciel, si je puis dire. Et il y avait déjà le rideau de fer qui s'était ouvert en Hongrie, comme vous le savez. Il y avait toute une toute une espèce de procession, je dirais, d'Allemands de l'Est, mais de Tchèques aussi, et d'autres qui se rendaient en Hongrie pour pouvoir aller franchir ce rideau de fer. Donc finalement, c'était dans l'air, si je puis dire. Maintenant, aussi rapidement, évidemment, ça a été une grande surprise, y compris pour les spécialistes comme moi ou d'autres.
Et est-ce que l'URSS aurait disparu si le mur de Berlin ne s'était pas effondré, Thierry Vauton?
Oui, je pense que oui, absolument. Oui, j'en suis intimement convaincu. Le système était absolument à bout de souffle. Il espérait ce système, et c'est d'ailleurs toute la politique de Gorbatchev à l'époque, il espérait à cette époque obtenir de l'aide des Occidentaux pour sauver ce système, d'où toutes les concessions qui ont été faites par Gorbatchev, y compris en ce qui concerne cette chute de l'Empire, c'est d'une partie de l'Empire de l'Ouest pour l'Union soviétique et de l'Est pour nous. Donc ça fait partie des concessions. Il espérait évidemment que les Occidentaux allaient mettre au pot, si je puis dire. Ça ne s'est pas fait pour de multiples raisons. Reagan qui était pas d'accord. Bon voilà, entre autres, je pense que ça a beaucoup joué ça. Donc ce qui fait que de toute façon, le système était à bout de souffle. Il était évident. Alors ça, peut-être pas si rapidement. Quand même, il faut dire que dans votre petit résumé d'entrée, il y a 2 ans qui se passent entre le moment où...
Oui, j'ai fait un petit raccourci.
entre la chute du mur, qui est quand même le 9 novembre, et la chute de l'Union soviétique, qui est le 25 décembre 91, donc plus de 2 ans après, la chute de l'Union soviétique était inévitable.
Hans Stark, quand l'Allemagne a été réunifiée en 90, est-ce que son ancrage à l'Ouest s'est fait naturellement, ou est-ce qu'il y a eu débat sur une possible neutralité du pays entre Est et Ouest?
Alors, son ancrage ne s'est pas fait parce qu'elle était ancrée. Donc, il n'y a pas eu de désancrage. Voilà. Ensuite, toute cette unification a été faite autour de l'idée que la RDA se dissout et entre, enfin, quand on entre chez quelqu'un, regrouper 5 Länder à l'ouest. Et donc que l'Allemagne unifiée est la copie conforme de l'ancienne RFA sur le plan de ses institutions, de son système économique, de son système des partis politiques, de son ancrage, comme vous dites, à l'Ouest, mais aussi au niveau de ses relations à l'échelle globale, y compris avec l'URSS. La RFA, l'ancienne Allemagne de l'Ouest, s'est agrandie à l'Est territorialement et avec 16 millions d'habitants. Et c'est tout. Donc c'est pas une nouvelle Allemagne qui voit le jour. Peut-être que la nouvelle Allemagne aura vu le jour par la suite, de facto, naturellement, parce qu'il y a eu évidemment des transformations, on pourra en parler tout à l'heure, mais il y a là vraiment une transition en douceur et qui a été voulue par Helmut Kohl.
Thierry Vauton.
J'abonde absolument dans ce sens-là. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a une petite polémique en ce qui concerne l'annexion, puisqu'on parle d'annexion quand même. C'est quand même incroyable. On parle d'annexion de l'Allemagne de l'Est par l'Allemagne de l'Ouest. C'est le titre d'un mensuel, n'est-ce pas? Et puis certains hommes politiques emploient ce terme-là. C'est incroyable de penser ça. Je veux dire, quand on a connu la situation de l'époque et quand on parle de la joie des gens qui ont retrouvé leurs frères de part et d'autre de ce mur. Bon, c'est comme si, à parler d'annexion pour moi, de la RDA par la RFA, c'est comme si on disait que la France libre, en 1944-45, au moment de la libération de la France, avait annexé la France. C'est aussi ridicule que ça. Donc je suis content de dire que ce n'est pas un ancrage. En vérité, c'est finalement l'Allemagne qui a retrouvé ses frontières. Pas tout à fait, parce qu'elles étaient sacrément amputées par les accords des Occidentaux après la guerre. Mais elle retrouvait en tout cas son territoire dans son intégralité.
Dorothea Bonnekamp, comment ont réagi les grandes puissances à la chute du mur? Ce qu'on a appelé l'équilibre de la terreur avait disparu, toutes les cartes se retrouvaient sur la table, on entrait dans un nouveau monde avec beaucoup d'espoir mais aussi pas mal d'inconnus.
Oui, bien sûr. 89, c'est la césure de la géopolitique, du jeu géopolitique qui a prévalu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors, les superpuissances, alors parlons tout d'abord de la puissance française. On a longtemps reproché à Mitterrand une certaine réserve vis-à-vis de la réunification. Ben, les Français, Hubert Védrine l'a dit, Mitterrand s'est préparé depuis bon moment à une possible réunification. Dès 88, il y avait une équipe qui planchait à l'Élysée sur une possible réunification dans l'Allemagne et qui réfléchissait aux répercussions que cela pourrait avoir en Europe. Alors, la peur ou l'appréhension mitterrandienne était tout d'abord un renforcement de l'Europe à la faveur de l'Allemagne, bien sûr. Et puis, bien sûr, un recentrage de l'Europe vers l'Est. Donc ça, c'était un processus qu'il fallait éviter ou du moins canaliser. Donc ce qu'a fait Mitterrand, on le sait tous, c'est que c'était un accord, oui à la réunification, on l'accompagne, mais en contrepartie, un renforcement de la construction européenne et l'euro en échange. Vous savez bien ce voie. Les Américains, pour des raisons historiques évidentes, ont bien sûr accompagné, accéléré le processus. En Russie, c'était bien plus compliqué. Si Gorbatchev appelait la réunification de ses voeux, la chute du mur pour les Russes, je pense que M. Voltan, j'espère, va le valider, était quand même une ligne de défense qui est tombée. C'était aussi un échec.
C'est une catastrophe.
C'est une catastrophe.
Géopolitique, comme oui. La plus grande... Enfin, parce que vous savez, Poutine a dit que la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle, c'était la chute de l'Union soviétique. Donc, ça fait partie de cette catastrophe géopolitique, évidemment.
Bah, Thierry Voltan, quelle était à ce moment-là la préoccupation première de Moscou par rapport à cette nouvelle Allemagne?
Se sauver elle-même, soyons clairs. Gorbatchev était prêt à faire un Bretislav. Je rappelle ce que c'est que le Bretislav, c'était en mars 1918. La Russie vient de passer sous l'étendard bolchevique et la Russie était engagée, comme vous le savez, dans la Première Guerre mondiale, du côté d'ailleurs des alliés occidentaux. Et donc, et à ce moment-là, Lénine, qui avait promis la paix, a décidé de faire une paix séparée à Bretislav. Et ils ont perdu énormément. À ce moment-là, la Russie bolchevique a perdu énormément de territoire vis-à-vis de l'Allemagne. Hein. Donc, c'était grosso modo faire la même chose. C'est-à-dire, il vaut mieux sauver l'Empire, c'est-à-dire le centre de l'Empire, le cœur de l'Empire, et lâcher les pays de l'Est. Alors, à l'origine, évidemment, il ne pensait pas que ça se passerait comme ça. Il espérait, et d'ailleurs, toute la politique a foiré, sauf en Roumanie, d'ailleurs, c'est le seul pays où la politique gorbatchevienne a vraiment réussi, il espérait pouvoir... disons, moderniser le socialisme, mettre en place des hommes plus présentables que les vieux sbires qu'on avait vus avant, si vous voulez, et faire un espèce de socialisme, je veux dire, à visage humain. Je n'aime pas beaucoup l'expression parce que qu'est-ce que c'est que le socialisme si c'est pas à visage humain? Bon, bref, c'est une expression très ambiguë. Donc, faire un socialisme plus acceptable, toujours dans la même idée, d'ailleurs, on a oublié cet aspect-là, d'obtenir des crédits. C'était un besoin, une nécessité absolue pour l'Union soviétique d'essayer d'obtenir de l'argent pour sauver une économie qui était, mais complètement... liquéfié.
Hans Stark, dans ce contexte, comment va se dessiner les contours de la nouvelle Europe? L'Allemagne va militer pour l'élargissement à l'Est.
Dans un premier temps, on envisage quand même un partenariat avec la Russie. D'abord pour épauler Gorbatchev, qui en 90... victime d'un putsch, va être écarté, mais on espère quand même garder avec lui, durant la première moitié de l'année 90 encore, une véritable relation structurée. Et donc, on n'a pas misé sur les organisations occidentales, communauté européenne ou OTAN pour faire la nouvelle Europe, mais sur l'ancienne CSCE, la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, qui va être transformée en OSCE, Organisation pour la même chose, donc sécurité et coopération en Europe. Et donc, on envisage plutôt une Europe, un peu comme l'avait proposé Gorbatchev, quand il parlait de la maison commune européenne, donc une Europe large. Donc là, on n'est pas encore dans la logique de l'élargissement. Et ce n'est qu'à partir du moment où la Russie commence à se raidir au tout début des années 90, où elle commence à évoquer le terme d'étranger proche quand elle parle de l'Ukraine, lorsqu'elle fait comprendre que finalement elle a envie de récupérer les morceaux de l'URSS qu'elle avait perdu, que les pays centre-européens se tournent vers les occidentaux et se disent, bah, écoutez, nous sommes dans une zone grise, à l'est la Russie qui redevient un peu inquiétante, à l'ouest vous, mais vous voulez pas de nous, qu'est-ce qu'on fait? Et là, on a commencé à envisager sérieusement à partir de l'année 1993, dans le cadre d'un processus structuré. On parle des critères de Copenhague qui ont été fixés au sommet européen de Copenhague en 1993. Donc on commence à envisager un processus d'élargissement qui va aboutir donc en 2004-2007, lorsque vont rentrer une douzaine de pays, dont 10 de l'ex-bloc soviétique, et de l'ancienne Yougoslavie pour ce qui concerne la Slovénie.
Dorothea Bonnekamp, est-ce que cet élargissement se fait trop vite, selon vous?
C'est une question qu'on peut se poser. Maintenant, il ne faut pas oublier que ces populations dans l'Europe de l'Est, j'espère que là aussi, M. Voltan me donne raison, étaient particulièrement, et le sont toujours, pro-européennes en Pologne. Si vous faisiez aujourd'hui un référendum en Pologne, vous pouvez être sûr que 90% des Polonais diraient oui à l'Europe. Ce n'est pas du tout le cas à l'Ouest de l'Europe. Et je parlerai du Brexit plus tard. Moi, je pense que c'est beaucoup plus les répercussions du tournant capitaliste, l'arrivée dans une économie de marché qui a beaucoup plus déboussolé les gens que véritablement l'entrée dans l'Europe.
Est-ce que vous êtes d'accord, Thierry Voltan?
Oui, je pense qu'il y a dans cette affaire-là, qui est une affaire très importante à mon avis, puisque l'avenir de l'Europe en dépend, il y a une espèce de méconnaissance occidentale par rapport à ce qu'a été ce qui se passait derrière le rideau de fer, et une espèce de volonté d'aller de l'avant tout trop rapidement. Je m'explique. La démocratie, ça ne s'invente pas. Je veux dire, ça, ça tombe pas du ciel, c'est pas quelque chose comme ça, c'est une éducation, c'est long à faire. Bon, et ces pays-là sortent d'une nuit totalitaire, excusez-moi d'employer le mot, parce que c'est ce qui me paraît le plus exact comme terme, hein, et donc il faut rééduquer, d'autant plus que il y avait une énorme corruption dans ces pays-là, qu'une grande partie de l'élite s'est reconvertie, le communisme s'est reconverti dans les affaires, y compris changer de parti, ils sont devenus des partis démocrates, ou socialistes démocrates, peu importe leur nom, mais c'était quand même des communistes, bon bref, et ce sont eux qui ont quand même occupé le terrain, et on sort à peine, je dis à peine aujourd'hui, 30 ans, vous savez, 30 ans en histoire ce n'est rien, c'est un clin d'œil comme je dis en général, hein. Donc on sort à peine de cette génération, si je puis dire, qui était les générations déjà au pouvoir avant la chute, et donc enfin on arrive à une nouvelle classe politique qui est un peu plus éduquée, démocratiquement parlant j'entends, et qui donc permettrait, mais c'est un processus lent, il ne faut pas être impatient comme on peut l'être en Occident, comme si ça allait se passer comme ça du jour au lendemain, quoi.
Hans Stark, la montée des populismes ces dernières années en Europe, vous l'expliquez comment ? C'est la mondialisation, c'est le libéralisme. Est-ce que c'est la décision d'Angela Merkel en 2015 d'accueillir près d'un million de réfugiés, pour la plupart syriens ?
Ben, il me semble que les populistes sont présents en France bien depuis le début des années 80. Hein. Donc on est loin de on est loin de ce scénario de transformation de l'Europe. Et je veux dire par là que il y a évidemment des conditions multiples qui expliquent l'émergence de ce phénomène, qui sont liées quand même pour l'essentiel à des conditions économiques, au problème aussi de migration diverse et variée, la globalisation, et ça concerne tous les États, pratiquement. Et en même temps, tous les États ont des conditions différentes par rapport à l'émergence de ce phénomène. Lorsqu'on regarde, par exemple, l'Espagne, en Espagne, ce phénomène est différent de celui qu'on connaît en Italie ou en France, etc. Pour revenir peut-être au cas allemand, qui nous intéresse peut-être un peu plus ici, et pour être plus clair, peut-être aussi dans les propos, s'explique, en ce qui concerne la montée du populisme en Allemagne, du fait que cette unification, qui s'est faite, enfin, elle s'est faite un peu au pas de charge, très rapidement. Je rejette le terme aussi d'Anschluss ou d'annexion, parce que les Allemands de l'Est ont souhaité une remise à niveau de leur niveau de vie très rapidement, et donc ça ne pouvait pas se faire lentement, mais il fallait y aller très vite. Mais ils ont gardé aujourd'hui, vis-à-vis de l'unification, un arrière-goût, enfin une frustration, une déception profonde. Et ça se traduit aujourd'hui par un vote massif en faveur d'un parti populiste d'extrême droite qui s'appelle l'AFD, vous le savez, et qui fait un score honorable, entre guillemets, à l'échelle européenne à l'ouest, entre 10 et 12%. Donc nous sommes dans une fourchette, hélas, normal, et qui fait plus de 25% dans les nouveaux Länder, c'est ainsi qu'on appelle l'ex-RDA aujourd'hui. Et ça montre quand même un rejet de pas mal de choses, d'un système politique occidental, d'un système économique occidental, je dirais de leçons tirées d'une unification qui a laissé sur le carreau pas mal de gens, des vies transformées, parfois brisées, des périodes de chômage que beaucoup ont connues, et puis aussi, je termine, une ouverture sur l'étranger, à la fois l'étranger vaste et l'étranger la personne, auquel les Allemands de l'Est étaient beaucoup moins préparés, je dirais, que les Allemands de l'Ouest qui connaissent depuis les années 60 des vagues progressives d'immigration de diverses populations. Et en Allemagne de l'Est, ça arrive un peu rapidement. Je mets à l'écart maintenant les quelques Cubains ou personnes de Mozambique ou de Vietnam qui ont vécu en Allemagne de l'Est durant la RDA, mais dans des conditions de réclusion énormes, donc absolument pas intégrées dans la société. Et puis, dernier point aussi, on va très vite d'un point à l'autre, les Allemands de l'Est n'ont pas connu ce travail de mémoire, ce travail d'acceptation de la culpabilité, ce travail de deuil par rapport à la Shoah que les Allemands de l'Ouest ont connu, ont subi, ont accepté, ont maîtrisé, et ça fait que par rapport à beaucoup de choses, dont l'immigration, les Allemands de l'Ouest réagissent différemment.
On va se quitter le temps d'un nouveau journal sur RFI. On se retrouve dans 10 minutes pour continuer à débattre des conséquences géopolitiques de la chute du mur de Berlin. À tout de suite.
Géopolitique. Chantal Leroux.
Bienvenue si vous nous rejoignez pour la seconde partie de Géopolitique. 9 novembre 1989, soumis depuis des mois à la pression populaire, les dirigeants de la RDA lâchent du lest. Ils autorisent l'ouverture des frontières, Moscou laisse faire, le mur de Berlin s'effondre. Début d'un week-end de liesse, comme en témoigne ce reportage de France 3.
C'est l'image qui fait basculer l'histoire. À coups de pioche, de marteau, puis de pelleteuse, un mur s'écroule. Inoubliable, ce moment où Mislav Rostropovitch vient enchanter l'événement. Puis ses premières allées et venues d'Allemands de l'Est et de l'Ouest, si longtemps séparés, pour eux, c'est le temps des retrouvailles. Ça fait 3 ans et demi.
C'est la première fois que je grimpe sur le mur. Et alors, c'est comment? C'est, comment dire, c'est carrément géant.
La chute du mur de Berlin soulève alors beaucoup d'espoir en l'avènement d'un monde de paix, de prospérité. 30 ans après, que reste-t-il de ces espoirs? On continue d'en débattre avec nos invités, Dorothea Bonnekamp, maître de conférence à l'université Sorbonne Nouvelle Paris 3, Hans Stark, secrétaire général du comité d'études des relations franco-allemandes à l'IFRI, et le journaliste essayiste spécialiste du communisme Thierry Volton. Le président Emmanuel Macron fait cette semaine la une de l'hebdomadaire The Economist avec ses propos choc. L'Europe est au bord du précipice et l'OTAN en état de mort cérébrale. Alors Angela Merkel a admis des problèmes, mais elle a ajouté qu'elle ne partageait pas la vision radicale du président français. Qu'est-ce que vous en pensez les uns et les autres? Est-ce que vous êtes d'accord avec le pessimisme d'Emmanuel Macron? Thierry Volton.
Non. Pourquoi il raisonne comme ça? Macron est un peu désillusionné par rapport à l'Europe, c'est-à-dire il a essayé quand même d'en être leader, il n'y est pas arrivé, il s'est cassé les dents, si je puis dire, ne serait-ce qu'en se faisant retoquer son commissaire récemment, pour des raisons par le Parlement européen. Donc je pense qu'il cherche, donc c'est pour ça que je parle d'un tropisme gaullien, parce que De Gaulle a fait à peu près la même chose au moment où il y a eu des difficultés avec l'Allemagne, au rapprochement entre franco-allemand en 1963. Le traité qui était prévu n'a pas été accepté comme tel par le Bundestag, enfin, je vous passe les détails. Et donc finalement, c'est à ce moment-là que De Gaulle va se tourner vers l'Union soviétique et va faire cette politique d'ouverture à l'Union soviétique. Pour trouver un nouveau poids, si je puis dire. Parce que le problème de la France, et c'est un problème éternel depuis la Seconde Guerre mondiale, donc je fais un peu vite le raccourci, le problème de la France, c'est qu'elle est devenue un pays assez petit dans l'environnement. Elle a besoin de quelqu'un pour s'appuyer, pour pouvoir parler. Donc qu'est-ce que fait Macron? Il met en cause l'OTAN, il se rapproche. Il a l'intention de se rapprocher de Moscou, puisque c'est comme ça qu'il l'a dit.
Oui, il invite un dialogue constructif. Avec Moscou.
À la conférence des ambassadeurs, il a dit carrément qu'il fallait se rapprocher de l'Union soviétique. Il revient de Chine.
Et la Russie a salué, après l'interview à The Economist, paroles en or.
Bien sûr. Donc, pour la Russie, c'est du pain béni. Donc, à mon avis, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Maintenant, évidemment, je ne sais pas. Il y a peut-être des choses derrière que je ne connais pas et que personne ne connaît, mais je pense que c'est forcé de le dire aujourd'hui. Et je comprends la réaction d'Angela Merkel, en tout cas, et des Américains aussi, d'ailleurs, qui ne sont pas contents.
Dorothea Bonnekamp.
Oui, si je puis rebondir là-dessus, je ne suis pas totalement d'accord, parce que si on revient à la politique étrangère allemande, elle s'est construite depuis 49 ans, depuis le début de la RFA, sur 3 piliers. Hans Stark en est le spécialiste, à la fois l'ancrage à l'ouest, bien sûr, le partenariat transatlantique, qui est en crise aujourd'hui, depuis l'arrivée de Bush. Première crise. Deuxième pilier qui est en crise, c'est le multilatéralisme, qui ne fonctionne plus. L'OTAN, même l'ONU, mais surtout l'OTAN, ce sont des institutions, l'OMC aussi, qui sont de plus en plus contournées par les grandes puissances, que sont contournées, évitées, instrumentalisées, que sont les États-Unis, mais aussi la Russie et la Chine. Deuxième point, et puis troisième point, c'est mon troisième pilier, c'est la construction européenne, qui elle aussi est en crise. C'est à la fois la crise de l'Union économique et monétaire, que nous n'avons toujours pas résolu, et cela fait plus de 10 ans, voire même 11 ans que cela dure, depuis 2008, et puis il y a aussi le Brexit, qui interroge la cohésion de notre Union. Puis, troisième point, il y a des lignes fractures entre l'Est, avec le retour des régimes autoritaires populistes, le Sud, l'Italie, l'Espagne, et aussi la Grèce, qui conteste de plus en plus les acquis de Maastricht. Donc, il y a quand même pas mal de pain sur la planche, et moi, j'estime plutôt que l'Allemagne est vraiment confrontée à une réelle polycrise, sans apporter de réelles réponses pour le moment.
Hans Stark, votre point de vue après ces propos très alarmistes d'Emmanuel Macron?
Je pense que ce que veut dire Merkel, c'est que ça ne nous avance pas, ce type
d'établir ce genre de pronostic ou de constat.
It doesn't help. Comme on dit en bon anglais, je crois, j'espère en tout cas. Et c'est pas son genre. Merkel va sans doute, à mon avis, penser peut-être pas quelque chose. Enfin, elle va pas très loin au niveau de sa réflexion sur l'état du monde, du constat d'Emmanuel Macron. Mais le dire comme ça jette de l'huile sur le feu de façon inutile. Et je pense que c'est ça qu'elle a voulu critiquer, parce qu'il faut plutôt calmer le jeu, tout en restant évidemment conscient des défis. Emmanuel Macron ne pouvait pas s'attendre à devenir le maître de l'Europe en 2 ans. Il a été en 2017 sur la base d'un pays qui est en grande difficulté économique, qui continue à l'être. Je pense que le jugement de l'époque, du temps de la présidence Nicolas Sarkozy, que la France est un pays ruiné, peut-être excessif aussi, mais bon, les chiffres sont pas bons. Et on ne peut pas attendre à ce que la France trouve aujourd'hui, dans l'Europe des 27 ou des 28, avec la Grande-Bretagne encore, la place qu'avait De Gaulle dans l'Europe des 6, et qu'il avait d'ailleurs très mal pu garder, parce que toutes les propositions qu'il a faites à l'époque, des plans Fouché jusqu'à l'Europe politique, avec un axe franco-allemand autonome vis-à-vis des États-Unis, tout ça a échoué. Donc on voit très bien que l'Europe ne peut pas avancer avec un seul maître à bord. Et d'ailleurs, ce serait vraiment regrettable, voire très mauvais. Et ça ne peut pas être surtout pas l'Allemagne non plus. Et même le couple franco-allemand, lorsqu'il fonctionne, c'est rarement le cas.
Voilà, est-ce qu'il existe encore le couple franco-allemand?
Mais évidemment, il existe, mais c'est comme tous les couples, on se retrouve pas tous les soirs. Excusez-moi. Bon, ça c'est une première chose. Une deuxième, c'est que comme dans un couple, il faut des projets en commun. Lorsque les projets diminuent, le couple se fissure. Avec les projets, le couple se retrouve. Il y a beaucoup de projets qui peuvent être envisagés, notamment en franco-allemand. Le ministre de l'économie en Allemagne, Monsieur Altmaier, pense beaucoup maintenant à des projets à la Airbus pour le digital, pour les technologies du futur où l'Allemagne a pris du retard parce qu'elle mise davantage sur une industrie plutôt type 20e siècle, etc. Et je pense qu'il faut rentrer dans cette logique-là, sachant que pour Airbus, il faut une trentaine d'années aussi. Enfin, vous dites un clin d'œil, mais c'est long quand même parfois aussi, 30 ans. Le franco-allemand, je pense, il ne faut pas maintenant réfléchir en termes de grands projets, de parler de fédéralisme, de parler d'union, de parler de ci, cela. Tout ça, c'est pour la galerie. Il faut avancer, comme le disait Jean Monnet, avec des projets précis, secteur par secteur. Et après, on fait un bilan si on s'aime encore. Derrière, ce qui marche en franco-allemand, c'est vraiment le travail quotidien au niveau de la coopération des administrations de part et d'autre, au niveau des deux ministères des Affaires étrangères, des ministères de l'économie, des ministères des finances. Là, vous avez de très hauts fonctionnaires qui travaillent ensemble de façon quotidienne. Il n'y a pas deux pays au monde qui ont un réseau aussi intense, bilatéral, que la France et l'Allemagne. Et ça fonctionne malgré tout. Donc, ça veut dire, pour moi, le couple existe, mais comme ce que j'ai dit tout à l'heure, il doit se réinventer de temps en temps.
Début décembre aura lieu à Londres un sommet de l'Alliance Atlantique. Le président français veut muscler l'Europe de la défense. L'Europe, selon lui, doit se doter d'une autonomie stratégique et en avoir les capacités militaires. Est-ce que Berlin est sur la même longueur d'onde? Qui veut répondre?
La question est de savoir sur quelle longueur d'onde se trouve Berlin actuellement en termes de politique de défense, de sécurité et de politique étrangère tout court. Et je voudrais, si je puis me permettre, rebondir sur ce que vient de dire Hans Stark. La réaction d'Angela Merkel vis-à-vis de Macron est quand même très intéressante parce qu'elle est emblématique, à mon sens, de la vision actuelle, la vision berlinoise de la politique étrangère, qui est une vision pragmatique, légaliste, très prudente, mais on a quand même l'impression que Berlin s'est totalement désemparé face à cet arc de crise qui l'entoure, quoi. Donc, quelle est vraiment la réponse stratégique aux différentes crises, à la cohésion européenne? Et je voudrais, donc ça revient à ce que vous dites, quelles sont les réponses? Alors, on sait qu'en termes de politique militaire et de défense, la politique allemande a connu des mues considérables depuis 30 ans. L'Allemagne affirme de plus en plus un leadership, participe depuis plus de 20 ans à toutes les opérations menées par l'ONU. Il y a eu des livres blancs de la défense qui affirment très nettement que l'Allemagne doit davantage s'engager et participer. Mais néanmoins, où est-ce qu'on va actuellement? Je serais incapable de vous le dire.
En ce qui concerne le projet du sommet de décembre, oui. Si on est européen, on est évidemment absolument pour, je veux dire, oui. Soyons clairs. C'est vrai qu'il faut que... C'est un monstre du Loch Ness, si je puis dire, l'histoire de l'européenne de la défense, mais il faut absolument que l'Europe se dote effectivement d'une armée, oui. Mais c'est très compliqué parce qu'on est 27 et qui va... Bon, on comprend que la difficulté de la chose, mais ça devient très important pour que l'Europe puisse au moins peser plus... Parce que vous savez que le problème de l'Europe, c'est que c'est un géant économique et c'est un nain politique. Donc, les problèmes militaires jouent à ça. Ont ce rôle.
Je ne pense pas qu'on ait besoin d'une armée. L'OTAN, c'est pas les Américains qui désinventent l'OTAN. C'est les Européens, et avant tout l'Allemagne, qui ne contribuent pas assez à son fonctionnement sur le plan notamment budgétaire.
Ah, donc finalement, Donald Trump a raison de réclamer aux Européens...
Mais évidemment, mais Trump dit la même chose qu'Obama.
Oui, c'est vrai.
Sauf qu'il le dit à sa façon, qui d'ailleurs peut-être nous a réveillé un peu. C'est peut-être pas si mauvais que ça, mais Obama a dit exactement la même chose et a formulé la même critique à l'égard de la politique allemande. L'Allemagne est considérée, mais depuis longtemps, comme un profiteur d'un système de globalisation où la face cachée, négative, conflictuelle, etc., on laisse ça aux Américains, aux Français, aux Britanniques, et la face heureuse au niveau des exportations, là on en profite. Donc il est temps que l'Allemagne réfléchisse à ça, et là son problème par rapport à l'histoire qu'il faut absolument régler. Elle a eu parfois raison, elle avait pleinement raison en 2011, entrer en Libye pour en finir avec le régime de Gaddafi, pour en ressortir et laisser les Libyens entre eux. On voit les résultats que ça donne.
Donc elle a eu
100% raison de dire non. Donc il est bien d'avoir avec les Allemands parfois aussi une voix qui dit... Attendons, stop, soyons prudents. Quelle est notre stratégie de sortie? Qu'est-ce que nous voulons? Quel est l'objectif derrière une intervention militaire? Quelle sera la politique de nation building? Pendant combien de temps? Qu'est-ce qu'on va faire quand on va dans un pays, que ce soit la Syrie ou la Libye, etc., dans un monde qui brûle? Certes, ça c'est important. Mais il ne faut pas que cette voie de la prudence et de la sagesse devienne un veto permanent sur la base, en plus, d'une contribution à l'effort commun en matière de défense et de sécurité. Je ne pense pas qu'on ait besoin d'une armée, mais une force de réaction rapide. Ça, on peut le faire et on peut aussi investir dans une industrie de défense européenne autonome et compétitive. Et là, les Allemands ne font pas assez. Et ce serait parfaitement compatible avec notre place dans l'OTAN, et y compris avec la politique américaine actuelle. Donc je ne pense pas que la solution soit une armée européenne, en plus sous-payée, sous-financée avec les moyens dont on dispose actuellement. Ce serait une catastrophe.
Vous parliez de prudence, mais est-ce qu'on peut parler de frilosité de Berlin quand il s'agit de s'engager, par exemple, en Afrique, au Sahel, la France est en première ligne pour combattre les djihadistes. Et on a l'impression que la diplomatie allemande est un peu désemparée par rapport à ces guerres asymétriques contre les terroristes d'Al-Qaïda, ACMI, ACBA, Daesh, Dorothea Bonnekamp.
Je suis parfaitement d'accord avec vous. La politique étrangère militaire de l'Allemagne, c'est toujours, je viens de le dire, caractérisée par un profond légalisme. L'Allemagne a toujours le mieux agi dans le cadre multilatéral avec des partenaires. Et là, ce légalisme touche à ses limites, justement, face à des adversaires asymétriques, Daesh, etc. Alors, pour revenir sur Daesh, que fait l'Allemagne? Une fois de plus, souvent, c'est une réponse économique. On a d'ailleurs souvent l'impression que l'Allemagne est plus soucieuse de préserver ses intérêts commerciaux et économiques dans le monde que de résoudre efficacement les crises. Donc, pour revenir à Daesh...
Ça veut dire qu'elle sort son chéquier au lieu de contribuer
militairement sur... Est-ce la diplomatie du chéquier pourrait aller très loin?
Ça, c'est fini, ça.
Ça, c'est fini.
Ben oui,
ça c'est fini.
Pour les Tchéquiens, c'était dans les années 90 à propos du Koweït. Ouais. Non, mais aujourd'hui, par exemple, l'Allemagne est présente au Mali. Il y a un peu moins de 1000 soldats de la Bundeswehr qui se trouvent dans le sud et dans le nord du Mali, y compris dans les régions qui sont très très dangereuses, dans le cadre d'une
opération, la mission de l'ONU.
Mission de l'ONU. Donc ça veut dire que...
Mais il n'y a pas d'engagement direct sur le terrain.
C'est sur le terrain. Sauf que ce que l'Allemagne ne fait pas, elle ne fait pas des opérations où elle emploie la force armée. Et donc, elle envoie pas les soldats pour faire la guerre. Elle a une culture plutôt de maintien de la paix. Donc, c'est une culture d'interposition entre factions rivales. C'est une tradition aussi de formation d'armée sur place. C'est une façon aussi de patrouiller pour montrer une présence. Mais s'il est vrai, et on peut le critiquer, que l'Allemagne ne combat pas, parce que là, il y a encore vraiment de véritables réticences de la part de la population. Mais il faut aussi savoir que c'est très compliqué lorsqu'on envoie des armées un peu partout, parce que ça, on ouvre le flanc. aux reproches du néocolonialisme, et puis aussi pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec les pays dans lesquels on s'engage militairement de façon lourde et pour combien de temps. Donc tout ça. Mais pour terminer, vis-à-vis de l'Afrique, il y a eu il y a quelques années un véritable changement en Allemagne, notamment à partir de la crise migratoire de 2015. Et l'Allemagne mène aujourd'hui une politique de prévention, ce qu'on appelle une politique de prévention des causes migratoires. Ça s'appelle ainsi, c'est-à-dire faire en sorte que les vagues migratoires, finalement, que ça ne se produit pas. Et donc, ça veut dire sur place, en Afrique, politique de développement, augmentation de l'aide directe, augmentation des investissements, partenariat économique et commercial avec les pays africains. Et là où il faut, formation des armées, formation des forces militaires et, si nécessaire, dans un cas comme le Mali, présence militaire sur place.
En ce qui concerne l'Afrique, c'est difficile de comparer la politique française à la politique allemande, parce qu'il y a quand même une partie d'héritage colonial, excusez-moi, qui existe. Il y a des rapports privilégiés entre Paris et Mali, Paris et la Mauritanie, là où se passent les choses. Donc, si vous voulez, même si les Français agissent...
Oui, il y a souvent des accords de défense.
Bien sûr, même si les Français agissent sous le drapeau onusien, souvent, il y a quand même des... que l'Allemagne n'a pas. Donc, s'il y a une tradition qui existe, tout à l'heure, on a parlé de post-colonialisme, mais dans une certaine mesure, c'est vrai, ce qui explique que la France est plus engagé en ce qui concerne l'attitude de Daesh que l'Allemagne ou que les autres. Les Anglais n'y sont pas, par exemple. Voilà, donc voilà.
Est-ce que le fait de ne pas avoir de siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU a pesé sur la politique étrangère de l'Allemagne depuis 89? Hans Stark.
Bien sûr, ça pèse, parce que avoir un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies oblige à se positionner par rapport à des enjeux de la politique mondiale, et donc oblige de se doter d'un armement conséquent, d'avoir une force armée sérieuse, etc. Alors, pour revenir à cette question, les Allemands veulent-ils un siège? Il y a eu, en effet, sous Gerhard Schröder, qui était chancelier entre 1998 et 2005, une tentative pour une réforme du Conseil de sécurité, une ouverture. Il ne s'agissait pas de prendre la place à la France, comme dit Le Pen, ni de fusionner le siège français à un siège européen. Mais à l'époque, l'idée était de faire entrer de nouveaux membres parce que les cinq permanents ne reflétaient plus l'équilibre mondial. C'était l'équilibre de 45 et non pas l'équilibre de la fin du XXe siècle. Bon, ça s'est pas fait. Les Chinois ne sont pas d'accord pour que l'Inde rentre, ou le Japon. On n'est pas d'accord sur quel pays africain, etc., etc. Donc cette réforme ne s'est pas faite et on va vivre encore, à mon avis, pendant très longtemps avec l'équilibre de 1945 parce qu'il n'y a pas d'accord sur une réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc maintenant, nous avons, pour terminer, un traité qui s'appelle le traité d'Aix-la-Chapelle, nouveau traité franco-allemand. Dans ce traité franco-allemand, les deux parties plaident pour un siège européen, d'un siège de l'Union européenne au Conseil de sécurité des Nations unies, ce serait une catastrophe, madame. Parce que l'Europe, depuis qu'elle existe à l'échelle de l'Union européenne, depuis Maastricht, est en désaccord sur tous les enjeux de politique internationale, à commencer par la Yougoslavie au début des années 90, jusqu'au Venezuela, où la Grèce n'était pas d'accord avec le reste. Donc, je veux dire, de grâce, laissons ça pour les futurs historiens, enfin, pas pour demain.
Dorothea, un siège européen au Conseil de sécurité de l'ONU, un siège permanent, ce serait une très mauvaise idée?
Oui, on n'arrive déjà pas à se mettre d'accord sur la mutualisation de la dette. Qu'est-ce que ce sera vraiment en cas de crise grave?
Thierry Volton?
Idéalement, il serait évidemment souhaitable que l'Europe est un siège, l'Europe en tant que telle. Mais évidemment, et je suis d'accord, c'est absolument impossible aujourd'hui de l'envisager, malheureusement. Alors maintenant, est-ce que la France a... C'est ça le problème, c'est qu'est-ce que la France mérite sa place, si je puis dire. C'est un problème qui date de 45 d'ailleurs. Vous savez très bien pourquoi la France a été mise. C'était un souhait, en vérité, des soviétiques qui voulaient, parce que Staline voulait absolument introduire une espèce de division dans le camp occidental. Donc on a attribué à la France ce droit de vote. Donc voilà, il l'a bien employé, ceci, la France l'a bien employé jusqu'à maintenant, puisque la France a toujours été du côté des Occidentaux lorsqu'il fallait être du côté des Occidentaux à l'ONU. Bon, mais est-ce que la France mérite ce droit de vote aujourd'hui? Bon, comme on n'a pas d'autre solution, gardons-le pour l'instant, mais je crois pas que ça soit très juste dans l'équilibre des forces mondiales aujourd'hui.
Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été nos invités. Dorothea Bonnekamp, maître de conférence à l'université Sorbonne Nouvelle Paris 3. Hans Stark, professeur de civilisation allemande à la Sorbonne et secrétaire général du CERFA à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Et Thierry Volton, journaliste essayiste. Vous avez publié, je le rappelle, une histoire mondiale du communisme en 3 tomes chez Grasset. Merci à Laurie Plisson qui a réalisé cette émission et à Véronique Durand et Marion Lestel qui m'ont aidé à la préparer. Bon week-end à tous.